réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment, 6 heures?
Si vous êtes au lit, si vous refermez les yeux, merci de tendre l'oreille à votre réveil culturel. Merci d'être avec Un autre jour est possible en ce vendredi 4 mars 2016. Dans un instant, notre tête chercheuse de la semaine depuis lundi, l'islamologue Sabrina Mervin nous raconte les sunnites, les chiites, depuis le décès du prophète jusqu'à aujourd'hui, sunnites, chiites, guerre et paix, dans un instant, le 5e et dernier épisode. Et puis comme tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée, je reçois en deuxième partie donc David B. qui adapte un conte des mille et une nuits chez Gallimard, Hassib et la reine des serpents. Mais tout de suite, tête chercheuse. Sunnites, chiites, guerre, épée, 5e et dernier épisode. Bonjour Sabrina Mervin.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui, des tensions qui se sont installées, de la rivalité entre sunnites et chiites dans l'échiquier de la géopolitique actuelle, même si vous nous disiez hier que ça a commencé bien avant les décolonisations. Ça a commencé vers les années 20.
C'est ça. En fait, il faut reprendre un petit peu l'histoire de ce qu'on appelle le réformisme. Disons qu'au début du siècle, on a un mouvement, ou plutôt des individus, qui se disent réformistes, qui le sont, qui sont des modernistes. J'ai parlé la dernière fois de Jamal ed-Din el-Afrani, donc qui prônait le panislamisme. Il était, associé à Mohamed Abdo, un Égyptien, moufti d'Égypte, professeur à El-Azhar, la prestigieuse université islamique du Caire. Abdo professait un islam réformé qu'il tentait de moderniser, d'ouvrir à la société, pour une société, de s'adapter à une société qui bouge.
Et ça, c'est une réponse au wahhabisme ?
Ça, c'était une réponse justement au modernisme. Et le wahhabisme n'avait pas encore touché Mohamed Abdo. Mais son successeur, qui s'appelle Rachid Rida, qui lui est mort en 1935, peu à peu, alors qu'il se réclamait de Mohamed Abdo, qui était quelqu'un de très ouvert, peu à peu, Rachid Rida a cédé aux sirènes wahhabites. Et donc, peu à peu, progressivement, s'est engagé dans la voie du wahhabisme. Quasiment une conversion. Et après lui, d'autres se sont dit aussi salafistes, puisque c'était le mot, ce qui revient au même, hein, wahhabite et salafiste, c'est la même chose. Et donc, ensuite, on a eu, disons, dans les années 20, à partir des années 20, des mouvements, des intellectuels qui se réclamaient de cet islam salafiste, c'est-à-dire qui se veut réformiste, mais qui, en fait, ne veut pas se réformer vers la modernité. Il veut adapter la modernité à sa vision de l'islam. Et donc, dans les années 20, alors qu'on est un peu dans cette mouvance-là, on a quelques associations comme ça de musulmans qui suivent cette doctrine wahhabite. Et il émane de ces milieux de nouveaux acteurs, notamment Hassan el-Banna, qui en 1928 va fonder l'association des frères musulmans. Et là, on arrive à une vision de l'islam, une conception de l'islam qui devient une idéologie, qui devient un islam politique. Après Banna, en vient un autre, Sayed Qutb, qui lui va être l'idéologue du djihadisme, et les djihadistes d'aujourd'hui s'en réclament. Et Sayed Qutb va influencer d'autres penseurs, d'autres intellectuels musulmans. La particularité de ces de ces islamistes sunnites, c'est de ces fondateurs, c'est qu'ils sont de petits intellectuels. Ce sont des gens qui ont suivi la, l'école normale, des instituteurs. Côté sunnite, côté chiite, là on est côté sunnite.
Et côté égyptien donc, ouais.
Côté égyptien. Côté chiite aussi, là aussi il va y avoir un islam qui va commencer à se politiser et à s'idéologiser. Mais là, cet islam-là, il émane des clercs.
Parce qu'il y a un clergé.
Parce qu'il y a un clergé, absolument. Donc, il émane des clercs. Mais ces clercs vont être influencés par les mêmes idées. C'est-à-dire que, par exemple, Saïd Qutb a influencé Khomeini. Et les doctrines qu'ils vont élaborer d'un islam politique, d'un islam où qui est justement, comme disaient les frères musulmans, l'islam c'est la solution, c'est-à-dire c'est l'islam, c'est avec l'islam qu'il faut envisager le monde et qu'il faut gouverner l'État et administrer la société. Cet islam politique va être formulé différemment dans les milieux chiites parce que ce sont des clercs. Et notamment, bon, on a la doctrine de Khomeini qui est celle de la gouvernance du juriste spécialiste en droit islamique. Khomeini lui-même en était un. Et cette doctrine-là, elle va, si on peut dire, répondre à celle des frères musulmans. Et on a là deux versions de l'islam politique qui va donner lieu à des utopies. À, d'un côté, le califat, hein, les frères musulmans veulent restaurer le califat. De l'autre côté, avec Khomeini, c'est un clerc qui doit être à la tête de l'État. Donc on a deux visions de l'islam qui vont commencer à faire leur chemin. Donc de l'islam politique et d'un islam qui aussi est prosélyte, c'est-à-dire on va vers, enfin c'est révolutionnaire.
Alors ils avancent, mais est-ce qu'ils sont ennemis ?
Alors d'un certain côté, ils sont pas ennemis parce que l'islam pour les deux parties, l'islam c'est la troisième voie contre. Contre l'Europe, contre la, alors là, l'Amérique est entrée franchement en jeu, contre le sionisme, etc.
Donc, contre un monde bipolaire entre le bloc soviétique et le bloc occidental américain, ils arrivent avec cette solution.
Exactement.
Qui rejette et les uns et les autres.
Exactement. Sauf qu'au bout d'un moment, bien sûr, ils vont être aussi en rivalité à l'intérieur même du monde musulman. Et quand la révolution iranienne donne lieu à la fondation de la République islamique d'Iran. Je dis bien révolution iranienne, parce que la révolution, à la base, il y avait une révolution islamique, mais il y avait aussi une révolution de, fabriquée par des gens qui ne se voulaient pas, qui n'étaient pas... Il y avait d'autres choses. Mais en tout cas, ça a été finalement... Disons que ce sont les islamistes qui ont gagné, hein, qui ont pris le pouvoir. Donc, à partir de 1979, on a une nouvelle rivalité qui est entre l'Iran, qui a sa vision d'islam qu'il veut exporter, il veut exporter sa révolution, et l'Arabie Saoudite qui est hégémonique, qui commence à être hégémonique dans le monde musulman et qui a aussi ses doctrines, c'est-à-dire le wahhabisme, salafisme, à exporter.
Mais puisqu'il s'agit de deux courants qui veulent revenir en arrière pour aller très vite, Sabrina Mervin, pourquoi ils vont pas s'entendre ? Parce que et les uns et les autres vont proposer un islam plutôt rigoriste.
Je pense que la question n'est pas d'être rigoriste ou pas là. D'autant plus que ça se pose pas véritablement en ces termes. Et même le retour en arrière, si vous voulez, on peut le contester. C'est-à-dire que c'est aussi une forme de modernité. Voilà, l'islamisme, c'est aussi quelque chose qui a été produit. C'est une réponse à la modernité, mais c'est aussi quelque chose qui se produit dans la modernité. Tous ces gens sont tous très influencés par le communisme. Ils ont lu les écrits communistes, ils ont lu des traductions. Et en fait, même leur discours change, c'est-à-dire leur manière d'écrire change. Ils n'écrivent plus comme les anciens oulémas, ils écrivent comme des gens de leur temps aussi.
Hein, comme des révolutionnaires.
Comme des révolutionnaires, ils écrivent comme des idéologues. Alors, peut-être que pour Khomeini reste quand même avant tout un juriste, un faqih, mais pour les autres, c'est vraiment, c'est évident. Khomeini avait avait un pendant en Irak, qui est Mohamed Bakr Sadr, et lui, il a écrit un livre qui s'appelle « Notre philosophie », un autre qui s'appelle « Notre économie », et ces deux ouvrages sont une réponse au marxisme, tout ça pour instaurer l'islam comme la troisième voie entre le communisme et le capitalisme. C'est ça ce qui se discute à ce moment-là.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Sabrina Mervin ? Qu'est-ce qui se passe dans les deux branches de l'islam, les sunnites, les chiites ? Est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de vivre une période de rivalité entre les uns et les autres à travers le conflit géopolitique entre l'Iran et l'Arabie Saoudite ?
Alors, le conflit qui a lieu aujourd'hui et qui est quand même assez complexe, il faut voir qu'il est dans des configurations très particulières. Il y a l'Irak avec son histoire, il y a la Syrie aussi avec son histoire, il y a le Yémen qui a une histoire complètement différente. Et tout cela va se raccrocher à cette rivalité, à cette guerre froide, qui n'est plus très froide d'ailleurs, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite.
Avec des terrains où les uns et les autres s'entretuent.
Absolument. Alors, ils s'entretuent parfois, pas forcément, hein, ce ne sont pas toujours les slogans, mais ils s'entretuent parfois au nom de leur islam, de leur manière de concevoir l'islam, avec souvent des slogans qui ont des référents islamiques très forts. Cela dit, ça masque aussi d'autres intérêts, ça masque beaucoup de tensions et ça masque vraiment des luttes pour l'hégémonie à la fois politique, économique bien sûr, il y a toute la question du pétrole, il y a la question de l'eau et puis aussi évidemment ce que ça remet en question, ce sont les frontières héritées du démembrement de l'Empire ottoman.
Est-ce que vous pensez que ces frontières vont être remises en cause par ce conflit, Sabrina Mervin ?
Ce qui se passe en ce moment, c'est que on a un éclatement, hein, on a une espèce de chaos en fait, hein, ce que d'ailleurs ce qui a été théorisé par un idéologue de Daesh qui a écrit la Idarat al-Tawahush, donc la gestion en fait de la sauvagerie, donc de ce chaos qui découle du départ des Américains d'Irak. Donc effectivement, là, on a une situation où toutes les cartes sont rebattues.
Est-ce qu'on peut parler de purification religieuse, hein, je veux dire, des pays comme la Syrie, ou surtout l'Irak, où il n'y a déjà plus de chrétiens, où il y a eu un exode massif de chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se redessine entre territoire pour les chiites, territoire pour les sunnites ? Est-ce qu'on revient à une tension entre les deux branches de l'islam ?
On est en plein dans la tension, mais en même temps, si vous prenez le cas irakien, très récemment, l'ayatollah Sistani a décidé de ne plus s'exprimer par le biais de son porte-parole qui donnait des sermons en son nom tous les vendredis à Karbala. Il est en train de dire qu'il n'est pas d'accord avec le gouvernement irakien, donc il est en train de prendre une position de retrait par rapport justement à cet Irak chiite, hein, ce côté irakien, ce côté chiite de l'Irak. Il est en train de dire qu'il ne veut pas jouer ce jeu-là. Donc c'est peut-être là encore plus compliqué qu'on ne pense, c'est-à-dire, ou plus simple, c'est-à-dire que les acteurs eux-mêmes ne refusent parfois ce jeu.
Merci Sabrina Mervin. Je rappelle que la série « Sunnite, chiite, guerre et paix » est désormais disponible dans son intégralité sur franceculture.fr à la page de l'émission « Un autre jour est possible ». Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine, Sabrina Mervin.
Merci à vous.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
C'est l'actualité de la bande dessinée. Comme tous les vendredis, on va parler de votre adaptation d'un des contes des Mille et Une Nuits édité chez Gallimard. Hassib et la Reine des Serpents. La première partie est déjà en librairie, la seconde partie sortira à la rentrée. Mais avant de parler des Mille et Une Nuits, avant de parler de votre travail, David B., puisqu'on a passé une semaine à parler des chiites et des sunnites, est-ce que vous, qui êtes fin connaisseur de l'islam, de cette partie de l'histoire de l'islam, des livres ésotériques qui vous ont accompagné depuis le début de votre carrière, est-ce que il y a un style, une culture chiite, et puis un autre style, une culture sunnite?
Oui, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'on trouve plus facilement des représentations de la personne humaine dans le chiisme que dans le sunnisme, j'ai l'impression. Je suis pas un grand spécialiste, donc, mais c'est vrai que l'Iran a développé tout un art de la miniature extrêmement important. Qui était présent dans le monde sunnite jusqu'aux invasions mongoles et qui ensuite s'est fait beaucoup moins présent. Il est un peu revenu dans l'art populaire en Égypte, par exemple, au XVIIIe, XIXe siècle, mais sinon tout l'art de la miniature qu'on pouvait trouver à Bagdad jusqu'au XIIIe siècle, après, il a disparu. Et par contre, bon, chez les Safavides, qui était la grande dynastie iranienne, puis ensuite chez les Qadjars et tout ça, il y a eu une explosion de l'art de la miniature au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, jusqu'à l'époque Qadjar, qui était extrêmement présent, quoi.
Et pour revenir à l'album, Hassib et la Reine des Serpents, d'abord cette envie de vouloir adapter un des contes des Mille et Une Nuits, c'est plutôt une commande de l'éditeur ou une envie à vous, David B.?
Je crois que c'est les deux. L'éditeur avait envie que je fasse quelque chose pour eux et je leur ai proposé divers sujets. Et les Mille et Une Nuits, ça leur plaisait bien. Moi, c'est vrai que j'avais envie depuis longtemps de me frotter à cet univers... à la fois fantastique et très foisonnant des Mille et Une Nuits, et puis aussi à ces structures de contes qu'on trouve dans les Mille et Une Nuits, c'est-à-dire ces contes qui sont en tiroir, comme ça, un peu en étage, où il y a un personnage qui vit des aventures, qui, au cours de ses aventures, rencontre un second personnage qui lui raconte ses aventures, et qui, au cours de ses aventures, en rencontre un troisième qui lui raconte ses aventures, et puis ensuite, on revient au second personnage et ensuite au premier personnage. Et ça, j'ai choisi vraiment un conte qui avait cette structure-là. Là, il est centré autour de trois personnages qui mènent chacun une quête, et qu'il a réussi ou pas, ça, je veux pas dévoiler l'histoire, mais c'est ce, et le personnage fantastique qui fait le lien entre ces trois personnes, c'est la Reine des Serpents, justement. Et qui est une figure mythique, apparemment, de l'univers oriental de l'époque. Et oui, ce qui est intéressant dans La Reine des Serpents, c'est que c'est contrairement à en Occident, où le serpent, c'est le mal, c'est le diable, tout ça. Là, c'est un personnage tout à fait positif. C'est une femme serpent, qui a une cour de serpents située dans une grotte sous terre, et qui cherche à aider les personnes qu'elle rencontre. Elle a un rôle tout à fait positif. Et en même temps, c'est comme souvent dans les contes des Mille et Une Nuits, les personnages fantastiques sont liés au divin, c'est-à-dire c'est des personnages qui croient en Dieu et qui rendent hommage à Dieu. Alors elle a aussi, et en même temps elle est là pour exécuter les volontés divines, c'est-à-dire qu'elle va en enfer et ses serpents vont torturer les damnés, les méchants. Et comme en enfer il fait très très chaud, que c'est très difficile de travailler là-bas, chaque année, les serpents ont le droit de sortir de l'enfer pour aller respirer dans une île absolument paradisiaque, où justement un des personnages va la rencontrer, et là il rend hommage à Dieu. Enfin, c'était une image que je trouvais très belle, c'est ce côté où il y a toute la nature finalement qui va rendre hommage à Dieu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dessiner, et c'est quelque chose qui revient continuellement dans l'histoire. Il y a beaucoup de... Là, j'ai été obligé de couper dans le conte, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes qui se répètent. Et il y a beaucoup d'épisodes où les personnages vont d'île en île, et dans chaque île, ils rencontrent différentes sortes d'animaux ou de bêtes fantastiques qui sont là et qui ne le mangent pas. Mais disent, ben là, on est en train de prier Dieu, donc, et le personnage, que ce soit Assib ou que ce soit Bouloukiya, ensuite, disent, ah ben moi aussi, je cherche ce Dieu, justement, que vous priez, je cherche son prophète. Et puisque ce qui m'a intéressé dans ce conte aussi, c'est que c'est une histoire. C'est l'histoire de la prédestination, d'une certaine façon. Ce sont deux personnages. L'histoire se passe avant l'islam, c'est-à-dire que le premier personnage est un grec ancien, un grec antique, le second personnage est un juif, et tous les deux, le troisième personnage est un iranien, mais lui il est un peu à part, c'est-à-dire qu'il mène pas de quête divine, lui c'est une quête amoureuse. Et les deux premiers personnages savent qu'un prophète va arriver, qui va s'appeler Mahomet, qui sera le sceau des prophètes, et ils partent à la recherche de ce prophète. Le problème, c'est que ce prophète, il doit arriver dans des centaines d'années plus tard. Mais il continue à mener cette quête qui va les amener dans l'île du roi Salomon, par exemple. Ils vont aller lui demander conseil. Enfin, il y a tout un univers mythologique comme ça qui est assez extraordinaire. Et j'aimais beaucoup cette histoire de prédestination, me plaisait beaucoup.
Et puis le fait que, pour le meilleur, on est amené à passer par le pire, hein. Je veux dire que dans sa quête, Hassib, il va être obligé de faire des choses pas bien, hein, parce que c'est... Et de l'autre côté, la reine des serpents, qu'on imagine avec tous les pouvoirs, elle peut se faire avoir, elle aussi, dans ce conte.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a des... la magie n'a pas de limite, donc on peut, même si on est soi-même un animal magique, on peut se faire piéger par la magie d'un autre. Et là, c'est ce qui lui arrive. Il y a un personnage de sorcier qui... Ce qui n'est pas dit dans ce conte-là, mais c'est un personnage qu'on retrouve dans d'autres contes des Mille et Une Nuits, qui est zoroastrien, en fait. C'est-à-dire, c'est un persan, et qui a cette magie de la religion zoroastrienne que leur prêtaient les Arabes musulmans, les considéraient comme d'excellents sorciers, en fait. Et elle se fait avoir, et elle est obligée d'aider le second personnage, donc le personnage de Bouloukiya, dans sa quête pour trouver Mahomet, elle se retrouve obligée de l'aider. Mais en même temps, on découvrira dans l'histoire qu'elle lui en veut pas du tout. C'est toujours un personnage positif, un personnage qui est prêt à pardonner, qui est prêt, il n'y a pas du tout d'idée de vengeance. Aussi parce que le personnage de Bouloukiya est un personnage très positif, on le découvre petit à petit.
Mais qui est prêt à tout pour accomplir cette rencontre, cette quête, prêt à tout, c'est-à-dire on rentre aussi dans le questionnement, mais peut-être parce qu'on le lit aujourd'hui, votre bande dessinée, votre adaptation de ce conte, c'est-à-dire jusqu'où cette quête mystique peut nous amener à franchir peut-être la frontière du bien et du mal, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire.
Oui, tout à fait, mais je crois que le personnage de Bouloukiya ne sait pas, et il se choisit comme compagnon de route un personnage qui, lui, est entièrement négatif, qui a des buts qui sont pas du tout avouables. Lui, il cherche à renforcer un pouvoir matériel, en fait. Et Bouloukiya, qui ne sait pas... qui part comme ça du jour au lendemain. Lui, il est roi en Égypte, et puis il décide de tout abandonner pour aller chercher ce prophète. Et il choisit un mauvais compagnon de voyage. Mais il apprend petit à petit, justement. C'est-à-dire que dans cette quête, lui est épargné, son compagnon perd la vie à cause de ses mauvaises actions. Mais lui est épargné, justement, parce que au fond, il a le cœur pur. Et visiblement, le destin lit dans son cœur que son cœur est pur, donc l'épargne.
Comment vous avez fait pour adapter ce conte, pour le représenter, le dessiner ?
Ça, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de répétitions dans les mille et une nuits. Donc déjà, il faut enlever les répétitions. C'était des contes qui étaient dits dans la rue, qui étaient racontés dans la rue. Donc à chaque fois, il y avait des gens des nouveaux auditeurs, je dirais, qui venaient s'ajouter à la foule. Donc il fallait qu'on répète un peu les épisodes d'avant pour que les nouveaux puissent comprendre où on en était dans l'histoire. Donc ça, il est évident que dans la bande dessinée, ça n'avait plus sa raison d'être. Donc j'ai beaucoup enlevé, il y a beaucoup d'épisodes qui se répétaient, comme ces histoires d'îles où le personnage va d'île en île et à chaque fois il y a des épisodes, il rencontre des personnages qui sont des épisodes qui sont toujours un peu semblables, mais qui, je pense, qui à l'époque servaient à montrer tout un monde absolument extraordinaire où les gens voyageaient pas tous, et donc ça leur permettait de montrer que le monde était vaste, que l'empire arabe était quelque chose de très étendu et d'absolument fabuleux. Et ensuite, ce que je voulais, c'était mettre en scène Scheherazade en train de raconter l'histoire au sultan Shahriar. Mmh. Parce que l'histoire commence comme ça, on la connaît, c'est Scheherazade qui pour être épargné, raconte des histoires à son souverain. Et je voulais mettre ça en scène. Donc sur la page qui introduit l'album, on voit Scheherazade, le récit commence avec Scheherazade qui raconte son histoire. Et à l'intérieur des deux personnages, on a la première image de l'histoire, en fait, de l'histoire qu'elle est en train de raconter. Et ensuite, de temps en temps, on voit Scheherazade qui revient, qui fait son apparition. Et j'ai gardé le découpage en chapitres qu'il y a en nuits, plus exactement, qu'il y a, donc, puisque ce sont les mille et une nuits. Donc à chaque fois, elles sont nommées. On met la 400, voilà. Et ce fut la 491e nuit, et ce fut la 492e. Et ça, j'ai gardé ça, que j'ai mis dans des petits cartouches, pour rythmer l'histoire. Et j'ai vraiment voulu garder cette façon d'écrire qu'il y a dans les mille et une nuits.
La façon d'écrire, mais pas la dramaturgie entre Scheherazade et Shahriar. C'est-à-dire, toute cette dramaturgie va-t-elle continuer à raconter et à sauver sa vie ? Cela, vous ne le mettez pas en scène, comme si cette dramaturgie, tout le monde la connaissait, pour mieux vous concentrer sur le conte.
Oui, cette dramaturgie, je pense qu'elle est connue, et puis ce n'était pas mon propos. Moi, j'ai choisi un conte au milieu de tous les autres contes, donc ça m'était difficile, vu la place qui m'était impartie, j'aurais pu commencer effectivement d'abord raconter l'histoire de Scheherazade et puis ensuite passer à l'histoire qu'elle raconte. Mais c'était trop compliqué, donc ça, c'est vrai que je l'ai laissé de côté. Et chaque volume, là, il y en aura deux, se clôt justement avec la même image où on revoit à nouveau Scheherazade en train de raconter l'histoire au sultan Shahriar.
Merci David B.
Ah, merci.
C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, préparé avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, réalisé par Thomas Duterre, une émission de Toufik Hakem. Je vous souhaite de passer une excellente matinée. Et bien sûr, vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission en passant par franceculture.fr. Tout est à votre disposition à la page d'Un autre jour est possible.